Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, et vous, mes très chères sœurs et frères, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. La seconde quinzaine de janvier est traditionnellement réservée au bilan. Pour l'Union Spirit Belge, les activités ne cessent d'augmenter et c'est bien ainsi. Aussi, le bilan de l'année écoulée est plus que positif. Le travail accompli durant 2010 est là pour le démontrer. Pour rappel, un symposium, un congrès de médecine et de spiritualité, une série de conférences données par différents conférenciers, la première rencontre des enfants du Bélux, la participation à plusieurs événements internationaux, sans parler d'une collaboration toujours plus étroite et participative de frères et sœurs spirites dans le cadre de la francophonie, sont là pour montrer, si besoin était, que les choses bougent. Dans les années à venir, les objectifs à atteindre sont nombreux. Et pour y arriver, nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés. Nous aurons aussi besoin de toutes les personnes prêtes à s'investir pour collaborer à la diffusion de la philosophie spirite qui n'a d'autre but que de faire progresser l'humanité grâce à la lumière qu'elle apporte dans tous les domaines de vie. Mais dans l'immédiat, nous cédons la parole à notre sœur Marie-Claude Savard du Centre d'études Alain Kardec, Paix et Amour de Québec au Canada, avec qui nous continuerons la lecture de l'Évangile selon le spiritisme. Cette lecture sera immédiatement suivie par un communiqué de l'Union Spirit Belge ainsi que de l'agenda des activités prévues pour les prochains mois en Belgique et en France. Pour émettre des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 0 32 4 227 60 76 au départ de la France et le 0 352 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché de Luxembourg ou tout simplement consulter notre site internet. En ce début d'année, nous en profitons pour vous souhaiter à vous qui nous écoutez aujourd'hui, ainsi qu'à vos familles respectives, une excellente année 2011, ainsi qu'une très bonne écoute. Aujourd'hui, notre sœur Marie-Claude nous invite à poursuivre la lecture de l'Évangile selon le spiritisme. Chapitre 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père.
Chapitre 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je vous l'aurais déjà dit, car je m'en vais pour préparer le lieu. Et après que je m'en serai allé et que je vous aurai préparé le lieu, je reviendrai. Et vous retirerez à moi, afin que là où je serai, vous y soyez aussi. Saint Jean, chapitre 14, versets 1, 2, 3. Différents états de l'âme dans l'erraticité. La maison du Père, c'est l'univers. Les différentes demeures sont les mondes qui circulent dans l'espace infini et offrent aux esprits incarnés des séjours appropriés à leur avancement. Indépendamment de la diversité des mondes, ces paroles peuvent aussi s'entendre de l'état heureux ou malheureux de l'esprit dans l'erraticité. Suivant qu'il est plus ou moins épuré et dégagé des liens matériels, le milieu où il se trouve, l'aspect des choses, les sensations qu'il éprouve, les perceptions qu'il possède varient à l'infini, tandis que les uns ne peuvent s'éloigner de la sphère où ils ont vécu, d'autres s'élèvent et parcourent l'espace et les mondes. Tandis que certains esprits coupables errent dans les ténèbres, les heureux jouissent d'une clarté resplendissante et du sublime spectacle de l'infini. Tandis, enfin, que le méchant, bourrelé de remords et de regrets, souvent seul, sans consolation, séparé des objets de son affection, gémit sous l'étreinte des souffrances morales, le juste, réuni à ceux qu'il aime, goûte les douceurs d'une indicible félicité. Là aussi, il y a donc plusieurs demeures, quoiqu'elle ne soit ni circonscrite ni localisée. Différentes catégories de mondes habités. De l'enseignement donné par les esprits, il résulte que les divers mondes sont dans des conditions très différentes les unes des autres, quant au degré d'avancement ou d'infériorité de leurs habitants. Dans le nombre, il en est dont ces derniers sont encore inférieurs à ceux de la terre physiquement et moralement. D'autres sont au même degré, et d'autres lui sont plus ou moins supérieurs à tout égard. Dans les mondes inférieurs, l'existence est toute matérielle. Les passions règnent en souveraine, la vie morale est à peu près nulle. À mesure que celle-ci se développe, l'influence de la matière diminue, de telle sorte que dans les mondes les plus avancés, la vie est pour ainsi dire toute spirituelle. Dans les mondes intermédiaires, il y a un mélange de bien et de mal, prédominance de l'un ou de l'autre selon le degré d'avancement. Quoiqu'il ne puisse être fait des divers mondes une classification absolue, on peut néanmoins, en raison de leur état et de leur destination, et en se basant sur les nuances les plus tranchées, les diviser d'une manière générale, ainsi qu'il suit. Savoir. Les mondes primitifs affectés aux premières incarnations de l'âme humaine, les mondes d'expiation et d'épreuve où le mal domine, les mondes régénérateurs où les âmes qui ont encore à expier puisent de nouvelles forces, tout en se reposant des fatigues de la lutte. Les mondes heureux, où le bien l'emporte sur le mal, les mondes célestes ou divins, séjour des esprits épurés, où le bien règne sans partage. La terre appartient à la catégorie des mondes d'expiation et d'épreuve. C'est pourquoi l'homme y est en butte à tant de misères. Les esprits incarnés sur un monde n'y sont point attachés indéfiniment. Ils n'y accomplissent pas toutes les phases progressives qu'ils doivent parcourir pour arriver à la perfection. Quand ils ont atteint sur un monde le degré d'avancement qu'ils comportent, ils passent dans un autre plus avancé, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à l'état de pur esprit. Ce sont autant de stations à chacune desquelles ils trouvent des éléments de progrès proportionnés à leur avancement. C'est pour eux une récompense de passer dans un monde d'un ordre plus élevé, comme c'est un châtiment de prolonger leur séjour dans un monde malheureux, ou d'être relégués dans un monde plus malheureux encore que celui qu'ils sont forcés de quitter quand ils se sont obstinés dans le mal. Destination de la terre, cause des misères humaines. On s'étonne de trouver sur la terre tant de méchanceté et de mauvaises passions, tant de misères et d'infirmités de toutes sortes, et l'on en conclut que l'espèce humaine est une triste chose. Ce jugement provient du point de vue borné où l'on se place et qui donne une fausse idée de l'ensemble. Il faut considérer que sur la terre, on ne voit pas toute l'humanité, mais une très petite fraction de l'humanité. En effet, l'espèce humaine comprend tous les êtres doués de raison qui peuplent les innombrables mondes de l'univers. Or, qu'est-ce que la population de la Terre auprès de la population totale de ces mondes? Bien moins que celle d'un hameau par rapport à celle d'un grand empire. La situation matérielle et morale de l'humanité terrestre n'a plus rien qui étonne, si l'on se rend compte de la destination de la terre et de la nature de ceux qui l'habitent. On se ferait des habitants d'une grande cité une idée très fausse si on les jugeait par la population des quartiers infimes et sordides. Dans un hospice, on ne voit que des malades ou des estropiés. Dans un bagne, on voit toutes les turpitudes, tous les vices réunis. Dans les contrées insalubres, la plupart des habitants sont pâles, malingres et souffreteux. Et bien qu'on se figure la terre comme étant un faubourg, un hospice, un pénitencier, un pays malsain, car elle est à la fois tout cela, et l'on comprendra pourquoi les afflictions l'emportent sur les jouissances, car on n'en voit pas à l'hospice les gens qui se portent bien, ni dans les maisons de correction ceux qui n'ont point fait de mal, et ni les hospices ni les maisons de correction ne sont des lieux de délices. Or, de même que dans une ville, toute la population n'est pas dans les hospices ou dans les prisons, toute l'humanité n'est pas sur la terre, comme on sort de l'hospice quand on est guéri et de la prison quand on a fait son temps, l'homme quitte la terre pour des mondes plus heureux quand il est guéri de ses infirmités morales. Instruction des esprits, monde inférieur et monde supérieur. La qualification de monde inférieur et de monde supérieur est plutôt relative qu'absolue. Tel monde est inférieur ou supérieur par rapport à ceux qui sont au-dessus ou au-dessous de lui dans l'échelle progressive. La Terre étant prise pour point de comparaison, on peut se faire une idée de l'état d'un monde inférieur en y supposant l'homme au degré des races sauvages ou des nations barbares que l'on trouve encore à sa surface et qui sont les restes de son état primitif. Dans les plus arriérés, les êtres qui les habitent sont en quelque sorte rudimentaires. Ils ont la forme humaine, mais sans aucune beauté. Les instincts n'y sont tempérés par aucun sentiment de délicatesse ou de bienveillance, ni par les notions du juste et de l'injuste. La force brutale y fait seule la loi. Sans industrie, sans invention, les habitants dépensent leur vie à la conquête de leur nourriture. Cependant, Dieu n'abandonne aucune de ses créatures. Au fond des ténèbres de l'intelligence gît l'attente, la vague intuition d'un être supérieur, développé plus ou moins. Cet instinct suffit pour les rendre supérieurs les uns aux autres et préparer leur éclosion à une vie plus complète. Car ce ne sont point des êtres dégradés, mais des enfants qui grandissent. Entre ces degrés inférieurs et les plus élevés, il y a d'innombrables échelons. Et, dans les esprits purs, dématérialisés et resplendissants de gloire, on a peine à reconnaître ceux qui ont animé ces êtres primitifs, de même que, dans l'homme adulte, on a peine à reconnaître l'embryon. Dans les mondes arrivés à un degré supérieur, les conditions de la vie morale et matérielle sont tout autres que sur la terre. La forme du corps est toujours, comme partout, la forme humaine, mais embellie, perfectionnée et surtout purifiée. Le corps n'a rien de la matérialité terrestre et n'est, par conséquent, sujet ni aux besoins, ni aux maladies, ni aux détériorations qu'engendre la prédominance de la matière. Les sens, plus exquis, ont des perceptions qu'étouffent, ici-bas, la grossièreté des organes. La légèreté spécifique des corps rend la locomotion rapide et facile. Au lieu de se traîner péniblement sur le sol, ils glissent, pour ainsi dire, à la surface ou plane dans l'atmosphère sans autre effort que celui de la volonté, à la manière dont on représente les anges ou dont les anciens se figuraient les mânes dans les Champs-Élysées. Les hommes conservent à leur gré les traits de leur migration passée et paraissent à leurs amis tels qu'ils les ont connus, mais illuminés par une lumière divine, transfigurés par les impressions intérieures qui sont toujours élevées. Au lieu de visages ternes, ravagés par les souffrances et les passions, l'intelligence et la vie rayonnent de cet éclat que les peintres ont traduit par le nimbe ou l'auréole des saints. Le peu de résistance qu'offre la matière à des esprits déjà très avancés rend le développement des corps rapide et l'enfance courte ou presque nulle. La vie, exemple de soucis et d'angoisses, est proportionnellement beaucoup plus longue que sur la terre. En principe, la longévité est proportionnée au degré d'avancement des mondes. La mort n'y a rien des horreurs de la décomposition. Loin d'être un sujet d'effroi, elle est considérée comme une transformation heureuse. parce que là, le doute sur l'avenir n'existe pas. Pendant la vie, l'âme, n'étant point enserrée dans une matière compacte, rayonne et jouit d'une lucidité qui la met dans un état presque permanent d'émancipation et permet la libre transmission de la pensée. Dans ces mondes heureux, les relations de peuple à peuple, toujours amicales, ne sont jamais troublées par l'ambition d'asservir son voisin, ni par la guerre qui en est la suite. Il n'y a ni maître, ni esclave, ni privilégié de naissance. La supériorité morale et intelligente établit seule la différence des conditions et donne la suprématie. L'autorité est toujours respectée parce qu'elle n'est donnée qu'au mérite et qu'elle s'exerce toujours avec justice. L'homme ne cherche point à s'élever au-dessus de l'homme, mais au-dessus de lui-même en se perfectionnant. Son but est de parvenir au rang des purs esprits. Et ce désir incessant n'est point un tourment, mais une noble ambition qui le fait étudier avec ardeur pour arriver à les égaler. Tous les sentiments tendres et élevés de la nature humaine s'y trouvent, agrandis et purifiés. Les haines, les mesquines jalousies, les basses convoitises de l'envie y sont inconnues. Un lien d'amour et de fraternité unit tous les hommes. Les plus forts aident les plus faibles. Ils possèdent plus ou moins, selon qu'ils ont plus ou moins acquis par leur intelligence, mais nul ne souffre par le manque du nécessaire, parce que nul n'y est en expiation. En un mot, le mal n'y existe pas. Dans votre monde, vous avez besoin du mal pour sentir le bien, de la nuit pour admirer la lumière, de la maladie pour apprécier la santé. Là, ces contrastes ne sont point nécessaires. L'éternelle lumière, l'éternelle beauté, l'éternel calme de l'âme procure une éternelle joie que ne troublent ni les angoisses de la vie matérielle, ni le contact des méchants, qui n'y ont point accès. Voilà ce que l'esprit humain a le plus de peine à comprendre. Il a été ingénieux pour peindre les tourments de l'enfer. Il n'a jamais pu se représenter les joies du ciel. Et pourquoi cela? Parce que, étant inférieur, il n'a enduré que peine et misère. Il n'a point entrevu les célestes clartés. Il ne peut parler que de ce qu'il connaît. Mais, à mesure qu'il s'élève et s'épure, l'horizon s'éclaircit, et il comprend le bien qu'il est devant lui, comme il a compris le mal qu'il est resté derrière lui. Cependant, ces mondes fortunés ne sont point des mondes privilégiés, car Dieu n'est partial pour aucun de ses enfants. Il donne à tous les mêmes droits et les mêmes facilités pour y arriver. Il les fait tous partir du même point et n'en dote aucun plus que les autres. Les premiers rangs sont accessibles à tous, à eux de les conquérir par leur travail, à eux de les atteindre le plus tôt possible ou de languir pendant des siècles de siècles dans les bas-fonds de l'humanité. Résumé de l'enseignement de tous les esprits supérieurs. Monde d'expiation et d'épreuve. Que vous dirais-je des mondes d'expiation que vous ne sachiez déjà, puisqu'il vous suffit de considérer la terre que vous habitez? La supériorité de l'intelligence chez un grand nombre de ses habitants indique qu'elle n'est pas un monde primitif destiné à l'incarnation d'esprits à peine sortis des mains du Créateur. Les qualités innées qu'il apporte avec eux sont la preuve qu'ils ont déjà vécu et qu'ils ont accompli un certain progrès. Mais aussi les vices nombreux auxquels ils sont enclins sont l'indice d'une grande imperfection morale. C'est pourquoi Dieu les a placés sur une terre ingrate pour y expier leurs fautes par un travail pénible et par les misères de la vie, jusqu'à ce qu'il ait mérité d'aller dans un monde plus heureux. Cependant, tous les esprits incarnés sur la terre n'y sont pas envoyés en expiation. Les races que vous appelez sauvages sont des esprits à peine sortis de l'enfance et qui y sont, pour ainsi dire, en éducation et se développent au contact d'esprits plus avancés. Viennent ensuite les races à demi civilisées, formées de ces mêmes esprits en progrès. Ce sont là, en quelque sorte, les races indigènes de la terre, qui ont grandi peu à peu à la suite de longues périodes séculaires, et dont quelques-unes ont pu atteindre le perfectionnement intellectuel des peuples les plus éclairés. Les esprits en expiation y sont, si l'on peut s'exprimer ainsi, exotiques. Ils ont déjà vécu sur d'autres mondes, d'où ils ont été exclus par suite de leur obstination dans le mal et parce qu'ils y étaient une cause de trouble pour les bons. Ils ont été relégués, pour un temps, parmi des esprits plus arriérés et qu'ils ont pour mission de faire avancer, car ils ont apporté avec eux leur intelligence développée et le germe des connaissances acquises. C'est pourquoi les esprits punis se trouvent parmi les races les plus intelligentes. Ce sont celles aussi pour lesquelles les misères de la vie ont le plus d'amertume, parce qu'il y a en elles plus de sensibilité et qu'elles sont plus éprouvées par le froissement que les races primitives dont le sens moral est plus obtus. La terre fournit donc un des types des mondes expiatoires, dont les variétés sont infinies, mais qui ont pour caractère commun de servir de lieu d'exil aux esprits rebelles à la loi de Dieu. Là, ces esprits ont à lutter à la fois contre la perversité des hommes et contre l'inclémence de la nature. Double travail pénible qui développe en même temps les qualités du cœur et celles de l'intelligence. C'est ainsi que Dieu, dans sa bonté, fait tourner le châtiment même au profit du progrès de l'esprit. Saint Augustin, Paris, 1862. Monde régénérateur. Parmi ces étoiles qui scintillent dans la voûte azurée, combien est-il de mondes comme le vôtre, désignés par le Seigneur pour l'expiation et l'épreuve? Mais il en est aussi de plus misérables et de meilleurs, comme il en est de transitoires que l'on peut appeler régénérateurs. Chaque tourbillon planétaire courant dans l'espace autour d'un foyer commun entraîne avec lui ces mondes primitifs, d'exil, d'épreuves, de régénération et de félicité. Il vous a été parlé de ces mondes où l'âme naissante est placée, alors qu'ignorante encore du bien et du mal. Elle peut marcher à Dieu, maîtresse d'elle-même, en possession de son libre arbitre. Il vous a été dit de quelle large faculté l'âme a été douée pour faire le bien. Mais, hélas, il en est qui succombent, et Dieu, ne voulant pas les anéantir, leur permet d'aller dans ces mondes où, d'incarnation en incarnation, elles s'épurent, se régénèrent et reviendront dignes de la gloire qui leur était destinée. Les mondes régénérateurs servent de transition entre les mondes d'expiation et les mondes heureux. L'âme qui se repent y trouve le calme et le repos en achevant de s'épurer. Sans doute, dans ces mondes, l'homme est encore sujet des lois qui régissent la matière. L'humanité éprouve vos sensations et vos désirs, mais elle est affranchie des passions désordonnées dont vous êtes esclave. Là, plus d'orgueil qui vous terre le cœur, plus d'envie qui le torture, plus de haine qu'il étouffe, le mot « amour » est écrit sur tous les fronts. Une parfaite équité règle les rapports sociaux. Tous se montrent Dieu et tentent d'aller à lui en suivant ses lois. Là, pourtant, n'est point encore le parfait bonheur, mais c'est l'aurore du bonheur. L'homme y est encore cher, et par cela même sujet à des vicissitudes dont ne sont exempts que les êtres complètement dématérialisés. Il a encore des épreuves à subir, mais elles n'ont point les poignantes angoisses de l'expiation. Comparés à la terre, ces mondes sont très heureux, et beaucoup d'entre vous seraient satisfaits de s'y arrêter, car c'est le calme après la tempête, la convalescence après une cruelle maladie. Mais l'homme, moins absorbé par les choses matérielles, entrevoit mieux l'avenir que vous ne le faites. Il comprend qu'il est d'autres joies que le Seigneur promet à ceux qui s'en rendent dignes. Quand la mort aura de nouveau moissonné leur corps pour leur donner la vraie vie, c'est alors que l'âme affranchie planera sur tous les horizons. Plus de sens matériel et grossier, mais l'essence d'un périsprit pur et céleste, aspirant les émanations de Dieu même sous les parfums d'amour et de charité qui s'épandent de son sein. Mais hélas, dans ces mondes, l'homme est encore faillible, et l'esprit du mal n'y a pas complètement perdu son empire. Ne pas avancer, c'est reculer, et s'il n'est pas ferme dans la voie du bien, il peut retomber dans les mondes d'expiation, où l'attendent de nouvelles et plus terribles épreuves. Contemplez donc cette voûte azurée le soir, à l'heure du repos et de la prière, et dans ces sphères innombrables qui brillent sur vos têtes. Demandez-vous ceux qui mènent à Dieu, et priez-le qu'un monde régénérateur vous ouvre son sein après l'expiation de la terre. Saint Augustin, Paris, 1862. Progression des mondes. Le progrès est une des lois de la nature. Tous les êtres de la création, animés et inanimés, y sont soumis par la bonté de Dieu, qui veut que tout grandisse et prospère. La destruction même qui semble aux hommes le terme des choses n'est qu'un moyen d'arriver par la transformation à un état plus parfait, car tout meurt pour renaître et rien ne rentre dans le néant. En même temps que les êtres vivants progressent moralement, les mondes qu'ils habitent progressent matériellement. Qui pourrait suivre un monde dans ses diverses phases depuis l'instant où se sont agglomérés les premiers atomes qui ont servi à le constituer, le verrait parcourir une échelle incessamment progressive, mais par des degrés insensibles pour chaque génération, et offrir à ses habitants un séjour plus agréable à mesure que ceux-ci avancent eux-mêmes dans la voie du progrès. Ainsi marche parallèlement le progrès de l'homme, celui des animaux, ses auxiliaires, des végétaux et de l'habitation, car rien n'est stationnaire dans la nature. Combien cette idée est grande et digne de la majesté du Créateur, et qu'au contraire, elle est petite et indigne de sa puissance, celle qui concentre aux sollicitudes et sa providence sur l'imperceptible grain de sable sur la terre, et restreint l'humanité aux quelques hommes qui l'habitent. La terre, suivant cette loi, a été matériellement et moralement dans un état inférieur à ce qu'elle est aujourd'hui, et atteindra, sous ce double rapport, un degré plus avancé. Elle est arrivée à une de ces périodes de transformation ou de monde expiatoire. Elle va devenir monde régénérateur. Alors les hommes y seront heureux parce que la loi de Dieu y régnera. Saint Augustin, Paris, 1862.
Nous terminerons notre lecture du jour par le chapitre 4 de l'Évangile selon le spiritisme. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau.
Chapitre 4. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Jésus, étant venu aux environs de Césarée de Philippe, interrogea ses disciples et leur dit : Que disent les hommes touchant le Fils de l'homme ? Qui disent-ils que je suis ? Ils lui répondirent : Les uns disent que vous êtes Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou quelqu'un des prophètes. Jésus leur dit : Et vous autres, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre, prenant la parole, lui dit : Vous êtes le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus lui répondit : Vous êtes bienheureux, Simon, fils de Jean, parce que ce n'est point la chair ni le sang qui vous ont révélé ceci, mais mon Père qui est dans les cieux. Saint Matthieu, chapitre 16, versets de 13 à 17. Saint Marc, chapitre 8, versets de 27 à 30. Cependant, Hérode le tétraque entendit parler de tout ce que faisait Jésus, et son esprit était en suspens, parce que les uns disaient que Jean était ressuscité d'entre les morts, les autres qu'Élie était apparu, et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Alors Hérode dit : J'ai fait couper la tête à Jean. Mais qui est celui de qui j'entends dire de si grandes choses ? Et il avait envie de le voir. Saint Marc, chapitre 6, versets 14-15. Saint Luc, chapitre 9, versets 7-8-9. Après la transfiguration. Ses disciples l'interrogèrent alors et lui dirent : Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie revienne auparavant ? Mais Jésus leur répondit : Il est vrai qu'Élie doit revenir et rétablir toutes choses. Mais je vous déclare qu'Élie est déjà venu, et ils ne l'ont point connu, mais ils l'ont traité comme il leur a plu. C'est ainsi qu'ils feront souffrir le Fils de l'homme. Alors ses disciples comprirent que c'était de Jean-Baptiste qu'il leur avait parlé. Saint Matthieu, chapitre 17, versets de 10 à 13. Saint Marc, chapitre 9, versets de 10, 11, 12. Résurrection et réincarnation. La réincarnation faisait partie des dogmes juifs sous le nom de résurrection. Seuls les Sadducéens, qui pensaient que tout finit à la mort, n'y croyaient pas. Les idées des Juifs sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, n'étaient pas clairement définies, parce qu'ils n'avaient que des notions vagues et incomplètes sur l'âme et sa liaison avec le corps. Ils croyaient qu'un homme qui a vécu pouvait revivre, sans se rendre un compte précis de la manière dont la chose pouvait avoir lieu. Ils désignaient par le mot « résurrection » ce que le spiritisme appelle plus judicieusement « réincarnation ». En effet, la résurrection suppose le retour à la vie du corps qui est mort, ce que la science démontre être matériellement impossible, surtout quand les éléments de ce corps sont depuis longtemps dispersés et absorbés. La réincarnation est le retour de l'âme ou esprit à la vie corporelle, mais dans un autre corps nouvellement formé pour lui et qui n'a rien de commun avec l'ancien. Le mot « résurrection » pouvait ainsi s'appliquer à Lazare, mais non à Élie, ni aux autres prophètes. Si donc, selon leur croyance, Jean-Baptiste était Élie, le corps de Jean ne pouvait être celui d'Élie, puisqu'on avait vu Jean enfant et que l'on connaissait son père et sa mère. Jean pouvait donc être Élie réincarné, mais non ressuscité. Or, il y avait un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, sénateur des Juifs, qui vint la nuit trouver Jésus et lui dit : Maître, nous savons que vous êtes venu de la part de Dieu pour nous instruire comme un docteur, car personne ne saurait faire les miracles que vous faites si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je vous le dis, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. » Nicodème lui dit, « comment peut naître un homme qui est déjà vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère pour naître une seconde fois? » Jésus lui répondit, « en vérité, je vous le dis, si un homme ne renaît de l'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne vous étonnez pas de ce que je vous ai dit, qu'il faut que vous naissiez de nouveau. L'esprit souffle où il veut, et vous entendez sa voix, mais vous ne savez d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui répondit, « comment cela peut-il se faire? » Jésus lui dit, « quoi? Vous êtes maître en Israël et vous ignorez ces choses? En vérité, je vous dis que nous ne disons que ce que nous savons, et que nous ne rendons témoignage que de ce que nous avons vu. Et cependant, vous ne recevrez point notre témoignage. Mais si vous ne me croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment me croirez-vous lorsque je vous parlerai des choses du ciel? » Saint Jean, chapitre 3, versets de 1 à 12. La pensée que Jean-Baptiste était Élie et que les prophètes pouvaient revivre sur la terre se retrouve en maints passages des évangiles, notamment dans ceux relatés ci-dessus, numéro 1, 2, 3. Si cette croyance avait été une erreur, Jésus n'eût pas manqué de la combattre, comme il en a combattu tant d'autres. Loin de là, il la sanctionne de toute son autorité et la pose en principe et comme une condition nécessaire quand il dit « personne ne peut voir le royaume des cieux s'il ne naît de nouveau ». Et il insiste en ajoutant « ne vous étonnez pas de ce que je vous dis, qu'il faut que vous naissiez de nouveau ». Ces mots « si un homme ne renaît de l'eau et de l'esprit » ont été interprétés dans le sens de la régénération par l'eau du baptême. Mais le texte primitif portait simplement « ne renaît de l'eau et de l'esprit », tandis que, dans certaines traductions, à « de l'esprit », on a substitué « du Saint-Esprit », ce qui ne répond plus à la même pensée. Ce point capital ressort des premiers commentaires faits sur l'Évangile, ainsi que cela sera un jour constaté sans équivoque possible. Pour comprendre le sens véritable de ces paroles, il faut également se reporter à la signification du mot « eau », qui n'était point employé dans son acception propre. Les connaissances des anciens sur les sciences physiques étaient très imparfaites. Ils croyaient que la terre était sortie des eaux. C'est pourquoi ils regardaient l'eau comme l'élément générateur absolu. C'est ainsi que dans la Genèse, il est dit, « l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux, flottait à la surface des eaux, que le firmament soit fait au milieu des eaux, que les eaux qui sont sous le ciel se rassemblent en un seul lieu et que l'élément aride paraisse, que les eaux produisent des animaux vivants qui nagent dans l'eau, et des oiseaux qui volent sur la terre et sous le firmament. » D'après cette croyance, l'eau était devenue le symbole de la nature matérielle, comme l'esprit était celui de la nature intelligente. Ces mots « si l'homme ne renaît de l'eau et de l'esprit, ou en eau et en esprit » signifient donc « si l'homme ne renaît avec son corps et son âme ». C'est dans ce sens qu'ils ont été compris dans le principe. Cette interprétation est d'ailleurs justifiée par ces autres paroles. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Jésus fait ici une distinction positive entre l'esprit et le corps. Ce qui est né de la chair est chair, indique clairement que le corps seul procède du corps et que l'esprit est indépendant du corps. L'esprit souffle où il veut. Vous entendez sa voix, mais vous ne savez ni d'où il vient, ni où il va. Peut s'entendre de l'Esprit de Dieu qui donne la vie à qui il veut, ou de l'âme de l'homme. Dans cette dernière exception, vous ne savez d'où il vient, ni où il va, signifie que l'on ne connaît ni ce qu'a été, ni ce que sera l'Esprit. Si l'Esprit ou âme était créé en même temps que le corps, on saurait d'où il vient, puisqu'on connaîtrait son commencement. En tout état de cause, ce passage est la consécration du principe de la préexistence de l'âme, et par conséquent, de la pluralité des existences. Or, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux se prend par violence, et ce sont les violents qui l'emportent. Car, jusqu'à Jean, tous les prophètes, aussi bien que la loi, ont prophétisé. Et si vous voulez comprendre ce que je vous dis, c'est lui-même qui est Élie qui doit venir. Que celui-là entende qui a des oreilles pour entendre. Saint Matthieu, chapitre 11, versets de 12 à 15. Si le principe de la réincarnation exprimé dans Saint Jean pouvait, à la rigueur, être interprété dans un sens purement mystique, il ne saurait en être de même dans ce passage de Saint Matthieu, qui est sans équivoque possible. C'est lui-même qui est Élie qui doit venir. Il n'y a là ni figure ni allégorie. C'est une affirmation positive. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux se prend par violence. Que signifient ces paroles, puisque Jean-Baptiste vivait encore à ce moment-là? Jésus les explique en disant, « Si vous voulez comprendre ce que je dis, c'est lui-même qui est Élie qui doit venir. » Or Jean, n'étant autre qu'Élie, Jésus faisait allusion au temps où Jean vivait sous le nom d'Élie. Jusqu'à présent, le royaume des cieux se prend par violence. Est une autre allusion à la violence de la loi mosaïque qui commandait l'extermination des infidèles pour gagner la terre promise, paradis des Hébreux. Tandis que, selon la nouvelle loi, le ciel se gagne par la charité et la douceur. Puis il ajoute, « Que celui-là entende qui a des oreilles pour entendre. » Ces paroles, si souvent répétées par Jésus, disent clairement que tout le monde n'était pas en état de comprendre certaines vérités. Ceux de votre peuple qu'on avait fait mourir vivront de nouveau. Ceux qui étaient tués au milieu de moi ressusciteront. Réveillez-vous de votre sommeil et chantez les louanges de Dieu, vous qui habitez dans la poussière. Parce que la rosée qui tombe sur vous est une rosée de lumière, et que vous ruinerez la terre et le règne des géants. » Isaïe, chapitre 26, verset 19. Ce passage d'Isaïe est tout aussi explicite. « Ceux de votre peuple qu'on avait fait mourir vivront de nouveau. » Si le prophète avait entendu parler de la vie spirituelle, s'il avait voulu dire que ceux que l'on a fait mourir n'étaient pas morts en esprit, il aurait dit « vivent encore » et non « vivront de nouveau ». Dans le sens spirituel, ces mots seraient un non-sens, puisqu'ils impliqueraient une interruption dans la vie de l'âme. Dans le sens de régénération morale, il serait la négation des peines éternelles, puisqu'ils établissent en principe que tous ceux qui sont morts revivront. Mais quand l'homme est mort une fois, que son corps séparé de son esprit est consumé, que devient-il? L'homme étant mort une fois, pourrait-il bien revivre de nouveau? Dans cette guerre où je me trouve tous les jours de ma vie, j'attends que mon changement arrive. Job, chapitre 14, verset 10, 14. Traduction de la Mestre de Sacy. Quand l'homme meurt, il perd toute sa force. Il expire, puis où est-il? Si l'homme meurt, revivra-t-il? Attendrai-je tous les jours de mon combat jusqu'à ce qu'il m'arrive quelque changement? » Traduction protestante d'Osterwald. Quand l'homme est mort, il vit toujours. En finissant les jours de mon existence terrestre, j'attendrai, car j'y reviendrai de nouveau. Version de l'Église grecque. Le principe de la pluralité des existences est clairement exprimé dans ces trois versions. On ne peut supposer que Job ait voulu parler de la régénération par l'eau, du baptême, qu'il ne connaissait certainement pas. L'homme étant mort une fois, pourrait-il bien revivre de nouveau? L'idée de mourir une fois et de revivre implique celle de mourir et de revivre plusieurs fois. La version de l'Église grecque est encore plus explicite si c'est possible. En finissant les jours de mon existence terrestre, j'attendrai, car j'y reviendrai. C'est-à-dire, je reviendrai à l'existence terrestre. Ceci est aussi clair que si quelqu'un disait « Je sors de ma maison, mais j'y reviendrai. » Dans cette guerre où je me trouve tous les jours de ma vie, j'attends que mon changement arrive. Job veut évidemment parler de la lutte qu'il soutient contre les misères de la vie. Il attend son changement, c'est-à-dire il se résigne. Dans la version grecque, « j'attendrai » semble plutôt s'appliquer à la nouvelle existence. Lorsque mon existence terrestre sera finie, j'attendrai, car j'y reviendrai. Job semble se placer, après sa mort, dans l'intervalle qui sépare une existence de l'autre, et dire que là, il attendra son retour. Il n'est donc pas douteux que, sous le nom de résurrection, le principe de la réincarnation était une des croyances fondamentales des Juifs, qu'il est confirmé par Jésus et les prophètes d'une manière formelle, d'où il suit que nier la réincarnation, c'est renier les paroles du Christ. Ces paroles feront un jour autorité sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, quand on les méditera sans parti pris. Mais à cette autorité, au point de vue religieux, vient s'ajouter, au point de vue philosophique, celle des preuves qui résultent de l'observation des faits. Quand des effets ont vu remonter aux causes, la réincarnation apparaît comme une nécessité absolue, comme une condition inhérente à l'humanité, en un mot, comme une loi de nature. Elle se révèle par ses résultats d'une manière, pour ainsi dire, matérielle, comme le moteur caché se révèle par le mouvement. Elle seule peut dire à l'homme d'où il vient, où il va, pourquoi il est sur la terre, et justifier toutes les anomalies et toutes les injustices apparentes que présente la vie. Sous le principe de la préexistence de l'âme et de la pluralité des existences, la plupart des maximes de l'Évangile sont inintelligibles. C'est pourquoi elles ont donné lieu à des interprétations si contradictoires. Ce principe est la clé qui doit leur restituer leur véritable sens. Les liens de famille fortifiés par la réincarnation et brisés par l'unité d'existence. Les liens de famille ne sont point détruits par la réincarnation, ainsi que le pensent certaines personnes. Ils sont au contraire fortifiés et resserrés. C'est le principe opposé qui les détruit. Les esprits forment dans l'espace des groupes ou familles unis par l'affection, la sympathie et la similitude des inclinations. Ces esprits, heureux d'être ensemble, se recherchent. L'incarnation ne les sépare que momentanément, car, après leur rentrée dans l'érasticité, ils se retrouvent comme des amis au retour d'un voyage. Souvent même, ils se suivent dans l'incarnation, où ils sont réunis dans une même famille, ou dans un même cercle, travaillant ensemble à leur mutuel avancement. Si les uns sont incarnés et que les autres ne le soient pas, ils n'en sont pas moins unis par la pensée. Ceux qui sont libres veillent sur ceux qui sont en captivité. Les plus avancés cherchent à faire progresser les retardataires. Après chaque existence, ils ont fait un pas dans la voie de la perfection. De moins en moins attachés à la matière, leur affection est plus vive par cela même qu'elle est plus épurée, qu'elle n'est plus troublée par l'égoïsme, ni par les nuages des passions. Ils peuvent donc ainsi parcourir un nombre illimité d'existences corporelles sans qu'aucune atteinte soit portée à leur mutuelle affection. Il est bien entendu qu'il s'agit ici de l'affection réelle d'âme à âme, la seule qui survive à la destruction du corps. Car les êtres qui ne s'unissent ici-bas que par les sens n'ont aucun motif de se rechercher dans le monde des esprits. Il n'y a de durable que les affections spirituelles, les affections charnelles s'éteignent avec la cause qui les a fait naître. Or, cette cause n'existe plus dans le monde des esprits, tandis que l'âme existe toujours. Quant aux personnes unies par le seul mobile de l'intérêt, elles ne sont réellement rien l'une à l'autre. La mort les sépare sur la terre et dans le ciel. L'union et l'affection qui existent entre parents sont l'indice de la sympathie antérieure qui les a rapprochés. Aussi, dit-on, en parlant d'une personne dont le caractère, les goûts et les inclinations n'ont aucune similitude avec ceux de ses proches, qu'elle n'est pas de la famille. En disant cela, on énonce une plus grande vérité qu'on ne le croit. Dieu permet, dans les familles, ces incarnations d'esprits antipathiques ou étrangers, dans le double but de servir d'épreuve pour les uns et de moyen d'avancement pour les autres. Puis, les mauvais s'améliorent peu à peu au contact des bons et par les soins qu'ils en reçoivent. Leur caractère s'adoucit, leurs mœurs s'épurent, les antipathies s'effacent. C'est ainsi que s'établit la fusion entre les différentes catégories d'esprits, comme elle s'établit sur la terre entre les races et les peuples. La crainte de l'augmentation indéfinie de la parenté, par suite de la réincarnation, est une crainte égoïste, qui prouve que l'on ne se sent pas un amour assez large pour le reporter sur un grand nombre de personnes. Un père qui a plusieurs enfants, les aime-t-il donc moins que s'il n'en avait qu'un seul? Mais, que les égoïstes se rassurent, cette crainte n'est pas fondée. De ce qu'un homme aura eu 10 incarnations, il ne s'ensuit pas qu'il retrouvera dans le monde des esprits 10 pères, 10 mères, 10 femmes et un nombre proportionné d'enfants et de nouveaux parents. Il n'y retrouvera toujours que les mêmes objets de son affection qui lui auront été attachés sur la terre, à des titres différents et peut-être au même titre. Voyons maintenant les conséquences de la doctrine de la non-réincarnation. Cette doctrine annule nécessairement la préexistence de l'âme, les âmes étant créées en même temps que le corps. Il n'existe entre elles aucun lien antérieur. Elles sont complètement étrangères les unes aux autres. Le père est étranger à son fils. La filiation des familles se trouve ainsi réduite à la seule filiation corporelle, sans aucun lien spirituel. Il n'y a donc aucun motif de se glorifier d'avoir eu pour ancêtre tel ou tel personnage illustre. Avec la réincarnation, ancêtres et descendants peuvent s'être connus, avoir vécu ensemble, s'être aimés et se trouver réunis plus tard pour resserrer leurs liens sympathiques. Voilà pour le passé. Quant à l'avenir, selon un des dogmes fondamentaux qui découle de la non-réincarnation, le sort des âmes est irrévocablement fixé après une seule existence. La fixation définitive du sort implique la cessation de tout progrès, car s'il y a progrès quelconque, il n'y a plus de sort définitif. Selon qu'elles ont bien ou mal vécu, elles vont immédiatement dans le séjour des bienheureux ou dans l'enfer éternel. Elles sont ainsi immédiatement séparées pour toujours et sans espoir de se rapprocher jamais. De telle sorte que père, mère et enfant, mari et femme, frère, sœur, amis, ne sont jamais certains de se revoir. C'est la rupture la plus absolue des liens de famille. Avec la réincarnation et le progrès qui en est la conséquence, tous ceux qui se sont aimés se retrouvent sur la terre et dans l'espace. Se gravitent ensemble pour arriver à Dieu. s'il en est qui faillissent en route, ils retardent leur avancement et leur bonheur. Mais tout espoir n'est pas perdu. Aidés, encouragés et soutenus par ceux qui les aiment, ils sortiront un jour du bourbier où ils sont engagés. Avec la réincarnation, enfin, il y a solidarité perpétuelle entre les incarnés et les désincarnés, de là le resserrement des liens d'affection. En résumé, quatre alternatives se présentent à l'homme pour son avenir d'outre-tombe. 1. Le néant, selon la doctrine matérialiste. 2. L'absorption dans le tout universel, selon la doctrine panthéiste. 3. L'individualité avec fixation définitive du sort, selon la doctrine de l'Église. 4. L'individualité avec progression indéfinie, selon la doctrine spirit. Selon les deux premières, les liens de famille sont rompus après la mort, et il n'y a nul espoir de se retrouver. Avec la troisième, il y a chance de se revoir, pourvu que l'on soit dans le même milieu, et ce milieu peut être l'enfer comme le paradis. Avec la pluralité des existences, qui est inséparable de la progression graduelle, il y a certitude dans la continuité des rapports entre ceux qui se sont aimés, et c'est là ce qui constitue la véritable famille. Instruction des esprits, limite de l'incarnation. Quelles sont les limites de l'incarnation? L'incarnation n'a point, à proprement parler, de limite, nettement tracée. Si l'on entend par là l'enveloppe qui constitue le corps de l'esprit, attendu que la matérialité de cette enveloppe diminue à mesure que l'esprit se purifie. Dans certains mondes plus avancés que la Terre, elle est déjà moins compacte, moins lourde et moins grossière, et par conséquent, sujette à moins de vicissitudes. À un degré plus élevé, elle est diaphane et presque fluidique. De degré en degré, elle se dématérialise et finit par se confondre avec le périsprit. Selon le monde sur lequel l'esprit est appelé à vivre, celui-ci prend l'enveloppe appropriée à la nature de ce monde. Le périsprit, lui-même, subit des transformations successives. Il s'éthérise de plus en plus jusqu'à l'épuration complète qui constitue les purs esprits. Si des mondes spéciaux sont affectés, comme stations, aux esprits très avancés, ces derniers n'y sont point attachés comme dans les mondes inférieurs. L'état de dégagement où ils se trouvent leur permet de se transporter partout où les appellent les missions qui leur sont confiées. Si l'on considère l'incarnation au point de vue matériel, tel qu'elle a lieu sur la Terre, on peut dire qu'elle est limitée au monde inférieur. Il dépend de l'esprit, par conséquent, de s'en affranchir plus ou moins promptement en travaillant à son épuration. Il est à considérer aussi que dans l'état errant, c'est-à-dire dans l'intervalle des existences corporelles, la situation de l'esprit est en rapport avec la nature du monde auquel le lie son degré d'avancement. Qu'ainsi, dans l'erraticité, il est plus ou moins heureux, libre et éclairé, selon qu'il est plus ou moins dématérialisé. Saint-Louis, Paris, 1859. Nécessité de l'incarnation. L'incarnation est-elle une punition et n'y a-t-il que les esprits coupables qui y soient assujettis? Le passage des esprits par la vie corporelle est nécessaire pour que ceux-ci puissent accomplir, à l'aide d'une action matérielle, les desseins dont Dieu leur confie l'exécution. Elle est nécessaire pour eux-mêmes, parce que l'activité qu'ils sont obligés de déployer aide au développement de l'intelligence. Dieu, étant souverainement juste, doit faire une part égale à tous ses enfants. C'est pour cela qu'il donne à tous un même point de départ, la même aptitude, les mêmes obligations à remplir et la même liberté d'agir. Tout privilège serait une préférence, et toute préférence une injustice. mais l'incarnation n'est pour tous les esprits qu'un état transitoire. C'est une tâche que Dieu leur impose à leur début dans la vie, comme première épreuve de l'usage qu'ils feront de leur libre arbitre. Ceux qui remplissent cette tâche avec zèle franchissent rapidement et moins péniblement ces premiers degrés de l'initiation et jouissent plutôt du fruit de leurs travaux. Ceux, au contraire, qui font un mauvais usage de la liberté que Dieu leur accorde, retardent leur avancement. C'est ainsi que, par leur obstination, ils peuvent prolonger indéfiniment la nécessité de se réincarner, et c'est alors que l'incarnation devient un châtiment. Saint-Louis, Paris, 1859. Remarque. Une comparaison vulgaire fera mieux comprendre cette différence. L'écolier n'arrive au grade de la science qu'après avoir parcouru la série des classes qui y conduisent. Ces classes, quel que soit le travail qu'elles exigent, sont un moyen d'arriver au but et non une punition. L'écolier laborieux abrège la route et y trouve moins d'épines. Il en est autrement pour celui que sa négligence et sa paresse obligent à redoubler certaines classes. Ce n'est pas le travail de la classe qui est une punition, mais l'obligation de recommencer le même travail. Ainsi en est-il de l'homme sur la terre. Pour l'esprit du sauvage, qui est presque au début de la vie spirituelle, l'incarnation est un moyen de développer son intelligence. Mais pour l'homme éclairé, en qui le sens moral est largement développé, et qui est obligé de redoubler les étapes d'une vie corporelle pleine d'angoisse, tandis qu'il pourrait être déjà arrivé au but, c'est un châtiment pour la nécessité où il est de prolonger son séjour dans les mondes inférieurs et malheureux. Celui, au contraire, qui travaille activement à son progrès moral, peut non seulement abréger la durée de l'incarnation matérielle, mais franchir en une seule fois les degrés intermédiaires qui les séparent des mondes supérieurs. Les esprits ne pourraient-ils s'incarner qu'une seule fois sur le même globe et accomplir leurs différentes existences dans des sphères différentes? Cette opinion ne serait admissible que si tous les hommes étaient, sur la terre, exactement au même niveau intellectuel et moral. Les différences qui existent entre eux, depuis le sauvage jusqu'à l'homme civilisé, montrent les degrés qu'ils sont appelés à franchir. L'incarnation, d'ailleurs, doit avoir un but utile. Or, quel serait celui des incarnations éphémères des enfants qui meurent en bas âge? Ils auraient souffert sans profit pour eux ni pour autrui? Dieu, dont toutes les lois sont souverainement sages, ne fait rien d'inutile. Par la réincarnation sur le même globe, il a voulu que les mêmes esprits, se trouvant de nouveau en contact, eussent occasion de réparer leurs torts réciproques par le fait de leurs relations antérieures. Il a voulu, en outre, fonder les liens de famille sur une base spirituelle et appuyer sur une loi de nature les principes de solidarité, de fraternité et d'égalité.
L'Union Spirit Belge nous rappelle que le spiritisme est une philosophie, un enseignement qui explique ce que nous sommes, d'où nous venons, vers où nous allons, comment faire pour y parvenir. Il explique également l'interaction qu'il y a entre les vivants, esprits incarnés que nous sommes, et le monde spirituel, esprit désincarné. Il enseigne l'amour du prochain et l'importance de la réforme intérieure pour aboutir à un monde meilleur, et ceci en suivant un processus de réincarnation. Le spiritisme n'impose rien et laisse à chacun la liberté et la responsabilité de ses actes. Bien que reçu par l'intermédiaire de médiums en contact avec les esprits évolués, le spiritisme n'a rien à voir avec la pratique médiuménique généralement répandue et utilisée à des fins matérielles, lucratives ou similaires. Il importe dès lors de bien faire la distinction entre spiritisme et médiuménisme. confusion qui, malheureusement, est largement répandue. On peut très bien être spirit sans être médium, et inversement. Seule la médiumnité à des fins supérieures et moralement élevées est pratiquée dans le mouvement spirit digne de ce nom, et ceci bénévolement, pour venir en aide à notre prochain ou afin d'élargir ses connaissances. Au-delà de l'aspect philosophique, la mise en pratique du spiritisme est donc le plus bel exemple qu'il a bien été compris. C'est pourquoi l'Union Spirit Belge souhaite réaliser différents projets et soutenir les associations qui, de par leur activité, viennent en aide à leurs prochains et participent ainsi à la réalisation d'un monde meilleur. C'est dans cette optique que nous faisons appel à toutes les bonnes volontés, pour soit soutenir directement nos projets, soit soutenir les projets des associations que nous parrainons. Dans la rubrique « Projets », vous trouverez tous les détails des projets en cours ou à venir de l'Union Spirit Belge, ainsi qu'un ou des liens d'associations parrainées. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Que vous soyez manuel ou intellectuel, que vous ayez une heure par semaine ou plus, que ce soit régulièrement ou occasionnellement, vous pouvez nous aider. À cette fin, vous trouverez bientôt un formulaire électronique que vous pouvez remplir. En attendant, vous pouvez nous contacter via notre formulaire de contact que vous trouverez sur notre site à l'adresse suivante http://spirit-sans-s.be. Si par contre, vous ne disposez pas de temps libre, vous pouvez toujours nous apporter votre soutien via notre compte en précisant éventuellement le ou les projets que vous voulez soutenir. Pour rappel, le numéro de compte est BE 59 1420 6284 6426, Union Spirit Belge, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre soutien. Nous voici arrivés à la séquence réservée à l'agenda des activités en Belgique, en France et au Grand-Duché de Luxembourg. En Belgique tout d'abord, le mercredi 19 janvier 2011, nos sœurs et frères du Centre d'études spirites Alain Kardec de Bruxelles ont le plaisir de vous inviter à la conférence du docteur Marcos Augusto Azevedo. Le docteur Marcos Azevedo est docteur en psychologie, professeur et diplômé dans le domaine de la santé publique. Il est le fondateur du Centre de vie et de réhabilitation pour les jeunes et les enfants handicapés Maria José. Il s'efforce de trouver des moyens et de l'aide dans le milieu du bâtiment pour la construction d'un centre d'études de maternité et de paternité consciente. Il a également fondé le projet Conception et Valeurs de la vie. Il affirme qu'on ne défend la vie que quand on reconnaît sa vraie valeur. Le thème de cette conférence sera donc Valoriser la vie. Elle aura lieu, pour rappel, le 19 janvier 2011 à 19h30. L'adresse du jour sera rue Louis App 134 à 1040 Bruxelles. L'entrée est gratuite. Pour plus d'informations, merci de bien vouloir prendre note de l'adresse du site de nos frères et sœurs du CESAC, http://bruxelles.cesac.org. L'Union Spirit Belge a le plaisir de vous inviter à son goûter le samedi 12 février 2011 dès 15h. Nous vous attendons nombreux afin de passer ensemble un agréable moment dans une ambiance conviviale ou au siège social de l'Union, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Participation aux frais sera de 4€ par personne. Inscription avant le 7 février 2011 avec le formulaire d'inscription disponible sur le site de l'USB à l'adresse suivante http://www.spirit-sans-s.be ou directement via les responsables des groupes, centres ou cercles philosophiques. En France, l'Association parisienne d'études spirites, dirigée par notre très chère sœur Anita Becquerel, vous fait part de ses conférences ouvertes au public prévues en ce mois de janvier. Vendredi 21 janvier de 20h à 22h, thème de cette conférence « Quand l'obsession est là, quelques mécanismes et résolutions ». Le samedi 28 janvier de 15h à 17h, le thème sera « Médiumnité de voyance, une faculté riche et exigeante, le médium face à l'éthique spirit ». Pour toute information complémentaire ou inscription éventuelle, merci de consulter le site de l'association à l'adresse suivante http://www.apes.asso.fr. Avis aux personnes et associations. Vous êtes responsable d'un groupe, d'une association ou simple particulier. Vous connaissez des personnes qui aimeraient en savoir plus sur la philosophie spirit. Vous avez un local, une pièce où vous pouvez nous en renseigner un. Si vous le souhaitez, nous pouvons venir faire une conférence de divulgation dans votre région afin de vous informer sur ce qu'est réellement la philosophie spirit et toutes les valeurs morales qu'elle renferme. Mieux encore, il n'y a pas de groupe spirit dans votre région. Vous avez envie d'en former un. Nous pouvons vous y aider en vous apportant un support didactique et humain pour la formation de celui-ci, même familial. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter par courrier ou courriel à l'adresse suivante, Union Spirit Belge 43 rue Maguin à 4000 Liège ou par courriel usb@spirit.be. Cette émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Allan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser ces questions par email, de manière tout à fait anonyme, si vous le souhaitez, à l'adresse radio@spirit.be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 00 32 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors d'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez nous envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.